Les rageux ont chien.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa dada.
Bonjour, 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 galérienne, galérien. Et oui, nous sommes sur Radio Galère, livres et amis. Mercredi 27 août 2025, ben au micro Dominique et à la technique, derrière la vitre Jules, et puis un peu plus loin, derrière les autres vitres ou dans les autres studios ou dans les autres pièces techniques, toute notre équipe revenue de vacances, Sidi, Tom, Sceaux, Louise, etc. etc. Donc je ne vais pas dire tout le monde parce que j'en oublierai, mais quand même, voilà l'essentiel, les permanents ou presque. Alors, Radio Galère, bah oui, Radio Galère avait pris des vacances en août. Moi, je suis partie encore un petit peu. Et ben ça y est, cette semaine, c'est la rentrée. C'est le retour au studio, donc le retour de Marseille. Bah oui, Françoise n'est pas là, elle traîne encore un petit peu. Et puis, en fait, on a bien voyagé cet été, non seulement dans la réalité, mais on a voyagé aussi dans la littérature, on a voyagé avec les livres, on a voyagé par la pensée ou par l'art. Et c'est vrai que bah, malheureusement, de mon côté, je vais vous laisser à nouveau. Je vais repartir en septembre un petit peu, faire la rentrée avec la petite famille de ma fille en région parisienne. Mais la rentrée marseillaise, elle est bien là. Nos cinémas rouvrent, nos théâtres vont rouvrir et nous proposent leur programme. Et puis, bah, il continue à faire frais dans les musées, donc profitons-en. Et en même temps, c'est quand même la suite de l'été marseillais. Donc, l'été marseillais continue, profitons-en aussi, avec des projections, des activités, des tas de choses. Et par exemple, dans le cadre de Ciné Plein Air, hier soir, il y avait à la Vieille Charité une projection d'un film tunisien de Kauter Ben Hania, L'homme qui a vendu sa peau, et j'ai vraiment trouvé passionnante cette histoire et passionnant ce film. Une histoire de tatouage, oui, dans le cadre de l'exposition temporaire actuelle à la Vieille Charité, qui s'appelle Tatouage au pluriel. Mais surtout, L'homme qui a vendu sa peau, un film dérangeant sur les réalités de la guerre et des migrations, en parallèle avec le monde ultra-chic et ultra-capitaliste de l'art contemporain. Donc art, argent, drame social, c'était le canevas du film d'hier et c'est aussi le canevas de la première partie de notre livre d'aujourd'hui, le docker noir. Donc, le docker noir du grand écrivain et réalisateur sénégalais Ousmane Sembène, c'est assez étonnant. Quand on évoque le docker noir, on pense bien sûr d'abord à la vie des travailleurs pauvres à Marseille dans les années 50. Mais en réalité, toute une partie du livre, toute la première partie du livre, s'intéresse aussi et surtout au milieu littéraire parisien, puisque le docker noir, le personnage principal du roman, écrit sur ses heures libres de prolétaire, mais il se fait voler son livre par une écrivaine parisienne. Et c'est toute l'histoire de la première partie, une histoire qui reste assez mystérieuse, sur laquelle on n'a finalement pas tellement d'éclaircissements, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en même temps qu'on a quand même vu donc dans la vision du personnage principal, qui est un peu déphasé par rapport à ce milieu parisien, on a donc la vision d'un système d'intellectuels et surtout de bourgeois qui permet d'évoquer précisément le racisme ordinaire de la bourgeoisie ou du moins des milieux bourgeois des années 50. C'est pratiquement l'idéologie coloniale en pleine action. Donc, avant d'entrer dans ce vif du sujet, je vous disais que le livre commençait par ça. En fait, pas tout à fait. On a au début, donc notre personnage, c'est bien notre docker noir installé à Marseille. Mais avant de l'évoquer lui, Ousmane Samben évoque sa mère au Sénégal et puis son amie de cœur et de corps, une jeune femme marseillaise. Et puis après, donc, il nous plonge, l'auteur Ousmane Samben, dans le roman du personnage qui est donc ce procès qu'on va suivre parce qu'il est accusé d'avoir tué une écrivaine connue dont il dit, lui, qu'elle lui avait volé son livre. Donc ça, c'est toute la première partie. Avant de faire un grand flashback dans la deuxième partie, mais on y viendra peut-être une semaine suivante, un grand flashback donc sur précisément sa vie de docker à Marseille. C'est assez intéressant de revenir sur, autour du procès de notre personnage, c'est assez intéressant de revenir, comme je vous disais, dans tous les a priori bourgeois des années 50, de la France coloniale et de son racisme quotidien. Et en attendant, on va commencer par une jolie évocation du Sénégal et de la maman du héros restée au Sénégal. Donc je vous lis. Le visage en larmes, son regard suivait le bateau qui venait de passer au large des Almadies, les Mamelles, seul point culminant du Sénégal, montagnes un peu ridicules par leur stérilité, moussues ici, dénudées là. La savane était bosselée de cactus. Il y avait des baobabs, mais qui semblaient avoir été oubliés, comme des brindilles laissées par le balai. Et donc la nature n'avait pas fait beaucoup de frais pour enrichir cette partie côtière de l'Afrique. Le paquebot fendait les flots. À l'arrière, près des machines, les reflets des eaux en débandade dansaient, tels de furtifs feux follets. Un gros nuage enveloppait le soleil couchant, dont il filtrait les rayons rougeâtres, teintant ainsi la voûte d'une couleur rouille foncée. À perte de vue, la mer s'arc-boutait contre le ciel. Le vent hérissait sa surface en faisant miroiter mille écailles. D'innombrables petites vagues se suivaient en serpentant. Les crêtes écumeuses allaient et venaient, déposant des impuretés sur la plage. À ses pieds, au pied de cette femme âgée qui était nue sur le sable, des crabes pyramides couraient de tous côtés. Et de loin, derrière les dunes, venaient des bruits. Yahya Salimata n'était pas venu pour s'isoler ni pour rêver, pas plus que pour rendre hommage au soleil couchant, non. À la cinquantaine, le visage calme, bien qu'un drame incompréhensible se jouât en elle, elle accompagnait de ses yeux décolorés la fumée des eaux qui allait au pays des Toubabs. Tout son désir était de rejoindre son fils, emprisonné dans ce pays des Toubabs. Elle était mère de 5 enfants. Eh oui, et le cadet l'avait un jour quitté pour l'Europe. Alors elle vivait avec le reste de sa famille à Yoff, où elle avait vu tant de bateaux passer. Ces bateaux qui allaient à longue ne l'intéressaient plus, mais celui-là, il allait au pays des Toubabs, là où son dernier fils était en prison. Les merveilles des Blancs ne la troublaient pas, elle les savait capables de tout. Ne faisait-il pas flotter ces masses de fer ? Il présidait tout. Mais déjà Dieu avait créé le monde. De quoi avait-on besoin de plus? La présence des Blancs finalement ne la gênait pas. Elle n'avait pour eux ni sympathie ni antipathie. Enfin, avant. Maintenant qu'il gardait son fils là-bas en Europe, elle les haïssait autant qu'elle le pouvait, elle les maudissait. Comment ça? Leur pays? Dans leur pays? Des grandes maisons comme à Dakar, des trains qui roulent, et puis des petits qu'on sépare de leurs parents? Il n'est pas de la race, n'est pas un parent, pas plus qu'il n'est à fréquenter. Mais non, son fils n'avait pas tué. Il n'était pas capable d'égorger un mouton, la vue du sang le rendait malade. Les Toubabs n'avaient vraiment pas de cœur, sinon il lui aurait rendu son petit. Ça faisait plusieurs mois que des hommes avec des appareils photographiques étaient venus la mitrailler, elle, chez elle, avec des lampes qu'ils allumaient, même le jour. Et on lui avait posé des questions saugrenues et on l'avait invitée en ville. Et même le commissaire s'était mis de la partie. Au loin, très loin, la traînée de fumée insensiblement s'évaporait dans l'espace. La masse flottante s'enfonçait paresseusement jusqu'à ne plus être qu'un point noir. Alors la femme resta assise sur le sable, donnant libre cours à ses pleurs. Le soir la surprit, elle rentra. Il y avait encore des enfants qui jouaient dans l'enceinte de la concession et qui s'arrêtèrent de parler à son approche. Elle alla s'enfermer dans sa chambre. Tout l'ameublement se composait d'un fauteuil sans accoudoir, d'un lit recouvert d'un drap et d'un panier dans un coin qui abritait des pagnes bariolées. Elle retira les journaux qui avaient été mis là, à côté de la paillasse. Le nègre Diofala, assassin de la célèbre romancière, sera jugé dans 3 jours par la cour d'assises de la Seine. C'est ce qu'il y avait écrit sur les journaux. Elle ne savait pas lire, mais on lui avait lu. Elle savait que c'est ce qu'il y avait écrit dans les journaux. Et les paupières boursouflées, la bouche mal fermée, les vêtements fripés, elle se repenchait sur ces journaux qui lui apportaient le malheur. Ce n'est pas possible. Le voyou qui a tué, ce n'est pas mon petit, ce n'est pas mon fils. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de le faire souffrir? Faire tant de mal à lui et à moi, une pauvre femme? Si je savais leur maudite langue, je pourrais lire ce qu'ils ont écrit et je pourrais leur répondre. Son désarroi était complet. Elle laissa retomber les papiers, ses paumes blanches se promenant sur ses joues et elle pressa ses yeux. Et puis elle s'écroula sur son lit. Son imagination lui montrait le pays des Toubabs, mais elle ne pouvait imaginer ce qui se passait, ce qui allait se passer au procès. Elle essaya de refouler les souvenirs de l'enfance de son fils. Son premier jour d'école, sa timidité, sa douceur. Il passait pour le meilleur des camarades. Tué, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, répétait-elle. Durant toute cette histoire, c'était ce qui la réconfortait. Non, ce n'était pas possible. Alors oui, cette femme est seule, elle est seule puisque son dernier enfant est parti et a été emprisonnée en France, au pays des Toubabs. Et elle se promène seule pour sans doute bercer sa douleur. Et elle va dormir seule, obsédée par l'angoisse, elle est comme dans un cauchemar. Oui, c'est sûr. Que fait-elle là, alors que son fils est si loin? Que fait-elle là? Que fait-il, lui, là-bas, au loin? C'est tout ce qui la concerne, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est une drôle de vie. Drôle de vie aussi de Catherine. Catherine, c'est l'amie de cœur, la fiancée, de Dio, de notre héros, donc, à Marseille. Et Catherine, elle est aussi torturée par l'inquiétude, puisqu'en fait, elle vit à Marseille, mais que Dio a été emprisonné à Paris. Alors, elle est seule, elle aussi, elle est seule, et je vais vous lire sa solitude. Dans cet appartement, ce petit appartement marseillais, un rideau pour la nuit, la séparait de la salle de séjour. Les murs étaient noirs de la fumée que dégageait le poêle. 2 chaises, un lit, un tabouret. Au-dessus de la table, de l'autre côté, une batterie de cuisine dépareillée. Non, ce n'est pas riche non plus. Et Catherine se ronge les sangs. Elle n'espère plus. Elle n'a plus vraiment de nouvelles. La correspondance établie avec son fiancé est très épisodique, très difficile. Elle est enceinte de 7 mois, et maintenant autour d'elle, les gens se détournent. Parce que, depuis son incarcération, Dion a échangé avec elle que quelques lettres. Et dans la dernière, il lui disait qu'il fallait régler la situation, et qu'il avait peu d'espoir d'être libéré. L'arrestation de Dios avait été terrible pour elle. Toute sa douleur s'infiltrait dans son esprit. Elle avait des doutes sur la véracité du récit fait par le jeune homme, mais elle avait des doutes sur toutes les horreurs que racontaient les journaux. Elle avait découpé les articles concernant l'affaire. Les données se contredisaient. Les journaux rivalisaient de détails sensationnels, mais les journalistes avaient perdu tout scrupule. Parce que Dio était noir, il ne respectait plus rien. D'un sac posé à côté du lit, Catherine sortit, elle aussi, les coupures de presse. Un article disait « Le nègre assassin de la célèbre romancière vient d'être arrêté. » Assassin, rien ne le prouvait. C'était bien pour ça qu'allait avoir lieu le procès. Elle espérait que le procès tirerait au clair toute cette affaire. Mais non, pour les journaux, c'était le nègre assassin. Et depuis son odieux crime, c'était ce qui perlait partout dans la presse, c'était le nègre assassin. Après avoir dépouillé la jeune femme, le nègre lui avait fracassé la tête et il était parti se réfugier dans une chambre d'hôtel où il avait été arrêté. Mais non, Catherine n'y croyait pas. Diofala était bien connue dans le quartier noir, un milieu où vivaient, bien sûr, des travailleurs pauvres, des barbeaux, des voleurs, des pickpockets. Mais lui, c'était un travailleur honnête. Bien sûr, pour les journalistes, ce n'était qu'un nègre comme les autres, un être sournois et d'une indolence anormale. Bien qu'il exerçât tout à fait honnêtement le métier de docker, on supposait que finalement il ne travaillait que de temps en temps, que quand ça lui chantait. Et c'était vraiment le problème. Lorsqu'on considérait ces pauvres gens venus travailler là, on les considérait en fait comme des voleurs, des assassins en puissance. Et si quoi que ce soit se produisait, eh bien immédiatement on les accusait. On pouvait facilement supposer qu'un nègre, sous l'emprise d'une passion sexuelle, avait saisi la pauvre Ginette Tontisane pour la violer et lui cogner la tête sur leur bord de la table, qu'il lui avait volé ses affaires, volé de l'argent et quoi. On avait trouvé des billets épars partout dans le studio où elle vivait. Alors, il n'avait pas volé d'argent. Qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Enfin, Catherine reposa les coupures de presse. Son imagination vagabondait autour de ce qu'avaient écrit les journalistes. On avait vraiment l'impression, d'après eux, de se trouver devant un être n'ayant jamais subi l'influence de la civilisation. D'après les journalistes toujours, il n'y avait rien de tel qu'un grand Mamadou inoffensif et candide, fort et souriant, pour se transformer en monstrueux assassin. Alors, quoi faire ? Catherine était complètement impuissante. Une photo de Dio, menottes au poignet, encadrée de 2 inspecteurs de police, couvrait une des pages. Le docker nègre, meurtrier de la romancière, a été interrogé ce matin. Malgré 24 heures d'interrogatoire, il s'en tient à ses premières déclarations. Il prétend qu'il n'est pas le véritable auteur du crime, mais par contre, qu'il est le véritable auteur de l'ouvrage couronné il y a peu de la romancière Tontisane, Le dernier voyage du négrier Sirius. Les deux faits semblent l'un totalement vraisemblable, l'autre totalement invraisemblable. Un nègre assassin, oui. Un nègre écrivain, non, on n'y croit pas. Alors, même si la victime à Marseille l'auteur du crime à Marseille était aimé de tout son quartier, la victime, elle, était une femme connue. Donc les deux milieux s'opposaient. Et cette femme, oui, on pensait qu'on pouvait la soutenir, alors que le nègre, non. Les journalistes rajoutaient des détails sordides. Qu'ils étaient allés pêcher, on ne savait trop où, ou peut-être simplement, justement, dans le panier et dans ses environs, dans ses quartiers pauvres et quelquefois sordides de Marseille. En fait, on ne connaissait pas le montant du vol puisqu'il restait de l'argent autour de la victime. On ne connaissait rien. On ne savait pas qui avait frappé Ginette Tontisane. Mais, comme il avait été arrêté, il avait été accusé. Et comme il était accusé, la presse ne cessait de trouver des détails dans le crime qu'il avait commis, alors que justement, rien au départ ne le prouvait. C'est ça finalement le problème central de cette première partie. Crime ou pas crime, ou du moins, crime dans tous les cas, oui, mais commis par Dio ou pas. En principe, le procès qu'on va suivre dans toute la première partie du livre, justement, ce procès doit faire la lumière sur les faits. Et on va voir dans tous les extraits du procès que finalement, c'est bien ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de preuve du crime, mais il y a tant de pensées qui accusent Dio qu'on a l'impression que l'enquête n'a pas été menée par la police et que l'enquête n'a même pas été éclairée par le juge. Donc on va maintenant... pour faire une petite coupure, on va s'intéresser justement au racisme ordinaire avant de s'intéresser au procès lui-même. Donc c'est Jules qui va nous mettre la musique. Et pour la musique, nous avons choisi justement de parler de ce racisme un peu ordinaire en musique avec Bernard Lavillier, Noir et Blanc. Merci.
Une chanson que je chantais, y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. chanson qui nous ressent. C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octo Fella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
La musique libératrice de Bernard Lavilliers, un petit peu comme la peinture, justement, ou l'art dans L'homme qui a vendu sa peau, et un petit peu aussi comme la littérature, ou du moins l'écriture, dans Le Docker Noir de Ousmane Samben. Autrement dit, échapper à la dure réalité par l'art ou par la littérature, effectivement. C'est ce qu'a essayé notre docker noir. Mais dans l'histoire, ce n'est pas vraiment ce qui lui a réussi. Alors, on le retrouve pour le procès, du meurtre dont il est accusé. On le retrouve au premier matin de son procès, en prison. Et on a, pendant quelques pages, ses ressentis, ses sentiments et surtout son incompréhension de la situation, puisque, personne, même son avocat, ne lui a vraiment expliqué de quoi il était véritablement accusé, ni même, finalement, comment il pouvait se défendre et comment il pouvait expliquer la situation. On a trouvé une femme assassinée, on l'a accusée du meurtre, oui, ça c'est sûr, mais après, les éléments de l'enquête, les éléments de la réalité d'une enquête policière, ça, on ne les a à aucun moment. Et donc, nous, lecteurs, nous ne les connaissons pas parce que le héros, Dio Fala, n'arrive pas non plus à les connaître. Il est totalement perdu dans le dédale de la justice et il est perdu dans ce monde des toubabs auquel finalement il ne comprend rien. Il s'est vraisemblablement fait rouler par une écrivaine connue qui lui a dérobé son manuscrit en toute tranquillité, qu'il l'a fait paraître à son nom. Et lui n'a rien compris de tout ça. Donc, quand il est venu lui demander des explications, eh bien, on ne saura jamais, finalement, disons, nous, lecteurs du livre, nous ne saurons jamais ce qui s'est vraiment passé. Mais en tout cas, nous savons, en effet, de quoi Dio Fala est accusé. Il est accusé d'avoir tué. Et ça, c'est bien ce qu'il a compris aussi. Depuis le jour où il avait été écroué, un véritable combat se livrait en Dio Fala, raisonnant, fouillant partout, afin que lui apparaisse la réalité de son acte. La liberté, on lui avait enlevée, mais il ne pouvait en conséquence se défaire de l'obsession d'être coupable. Il cherchait la force de se sauver en lui-même. Il essayait de traduire ses pensées en paroles, mais sa langue s'y refusait. Ce matin-là, la prison de Fresnes, où il était en prévention, était silencieuse. On n'entendait que le martèlement du pas des geôliers sur les dalles. Dio avait obtenu de loger seul. Et dans sa solitude, il observait chaque bruit, il observait ses différentes résonances de pas sur les carreaux, et ça lui servait à mesurer le temps. Ce matin-là, il perçut un bruit venant du rez-de-chaussée, c'était la relève de 4 heures. Et donc, dans 2 heures, on l'emmènerait pour les assises. Il avait chassé les jours et les nuits de sa tête. Parfois, il n'allait même pas à la promenade. Sa vie n'avait plus de sens. Pas plus que le lever du soleil, le crépuscule, les étoiles ou la lune, les nuages ou la pluie. Il ne mangeait plus. Les aliments qu'il prenait n'avaient aucun goût. Il avalait péniblement ce qu'on lui donnait, mais à peine. Et en fait, il était torturé par des crampes d'estomac. Il mangeait un peu de temps en temps pour soulager ses crampes d'estomac. De longs moments, il demeurait les yeux fermés, fouillant ses pensées, méditant sur ce qu'on l'avait accusé d'être son acte. Il voulait se libérer, mais comment ? Des impulsions contradictoires le malmenaient. Ce matin-là, enfin, on vint le chercher. Il sortit encadré de deux gendarmes, les menottes au poignet. Il ne disait rien, il ne s'intéressait pas au dialogue des policiers. Dans la voiture cellulaire, chaque tour de roue rapprochant son procès faisait battre son cœur à double coup. Devant le tribunal, des badauds attendaient. On le tira du fourgon, des flashs de journalistes, de photographes éclatèrent. Il n'y eut aucune réaction. Précédant les hommes de police, ils avançaient dans les couloirs et tous ensemble, ils prirent place sur un banc. Les lèvres pincées, il étudiait ses chaînes au poignet avec dégoût. Pourquoi ai-je écrit sur les esclaves ? Il se souvient de son livre. Pourquoi ? Je suis comme eux ? Ah oui, c'est ça, je suis comme eux. Je suis comme les esclaves. Son avocat vint le voir. Maître Henri Rioux était de petite taille, il perdait ses cheveux, il était d'un âge avancé, il passait pour très énergique. Son regard fixe brouillait les idées de ses adversaires. Et il avait un tic d'arranger sans arrêt sa robe en parlant à tout instant. Il prit un ton encourageant pour son client. « N'aie pas peur, mon petit, réponds juste à toutes les questions. »« Ben non, je n'ai pas peur. »« Bon, alors voilà, c'est déjà bien, tu vois. » Ne pas avoir peur et être rassuré. Je serai toujours à tes côtés. Avant l'entrée du juge, on lui enleva ses menottes. On le poussa un peu mieux vers sa place. Les deux hommes de la police le gardaient toujours à ses flancs. Il était là dans cette salle immense, mais qui semblait en même temps trop petite pour contenir tant de gens. Son cœur battait dans sa poitrine si fort qu'il le percevait comme par-dessus le bourdonnement des voix. Le magnésium des photos l'aveugla à nouveau, il ferma les yeux. Il fut mitraillé sous tous les angles. Il était harcelé par les photographes. Alors, en proie à une colère brusque d'un geste, il envoya voler un appareil. Ce geste incontrôlé provoqua un remous chez les reporters qui affluaient et l'incident souleva un tumulte. On le réprimanda, on lui fit rasseoir calmement à sa place. Sa pensée et son corps étaient si tendus que ses lèvres balbutiaient, mais aucun son n'en sortait. Il était comme lourd d'attente, et les bruits dans ses environs restaient confus. Il examina la foule à la dérobée avec l'espérance d'y voir une figure amie, mais en vain. Personne, non, personne à qui accrocher un regard d'espoir. À quelque chose près, tous ces spectateurs se ressemblaient. Pas une tache noire. Il se replia sur lui-même, sur le qui-vive. Il était le point de mire. Et tout à coup, un liquide brûlant de bile le suffoqua. Et puis, on annonça « Messieurs, la cour !» Il sursauta. La voix qui faisait l'annonce était rauque et grave. Tous se levèrent. Dio eut comme un pincement au cœur. Son avocat posa sa main sur la sienne et la froideur de cette main lui déclencha un frisson presque aussi terrible que tous les autres bruits qui l'environnaient. Un murmure de stupéfaction le rappela à la réalité. Que s'était-il passé ? Qu'ai-je fait encore ? Se demanda-t-il. L'auditoire n'avait plus Dieu que pour lui. Accroché au nuage, il n'avait pas suivi. Le président martelait son bureau, rappelait l'assistance à l'ordre. « Accusé, levez-vous !» La salle était de forme rectangulaire, le public entassé sur les bancs était séparé par une allée qui, oui, les séparait des juges et des hommes de loi. En entrant par la porte des témoins, le jury se trouvait aussi de l'autre côté, devant le banc d'infamie, enfin face au banc d'infamie. L'interrogatoire d'identité fut rondement expédié, puis le premier témoin fut appelé. Une femme apparut, jetant des recours craintifs. « Madame, c'est vous qui avez découvert le cadavre ?» demanda le président. « Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à découvrir le corps ?»« c'est comme je l'ai dit à la police. Enfin voilà, je faisais mon ménage, j'étais dans l'escalier. C'est moi qui fais l'escalier. » Et le monsieur du quatrième m'a dit « Il y a eu du bruit chez ma voisine, hein, cette nuit ?»« Ah bon, elle a reçu des amis, c'est vrai que son livre est sorti, elle a reçu beaucoup de courriers, enfin... »« Oui, elle a eu du monde. » Et puis je me suis dit « Mais quand même, faut monter. » Alors voilà, je suis montée, j'ai trouvé la porte entrebâillée, j'ai jeté un coup d'œil. Et alors là, pas de réponse. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, Marie, Joseph, Jésus. Et j'ai appelé, les autres locataires sont arrivés, on a téléphoné à la police. Vous aviez déjà vu cet homme ? Enfin, vous l'aviez déjà vu avant le crime ? Oh oui, parce que, vous savez, dans le quartier, il n'y a pas beaucoup de noirs. Hein. Alors on l'avait remarqué. D'ailleurs, la première fois, je l'avais vu qu'il regardait la plaque. Et j'avais remarqué, bien sûr. Il m'avait demandé, d'ailleurs, pour Madame Tontizane. Alors, quand il revenait, parce qu'il revenait de temps en temps, les autres locataires me disaient « qu'est-ce qu'il fait ce noir ici ?» Quand c'était pas « qu'est-ce qu'il fait ce nègre dans le quartier ?» c'était comme ça. Mais vous étiez renseigné, enfin, vous aviez demandé à votre locataire. Moi, je ne me serais pas permis. Madame Ginette, je ne savais pas si elle était intime avec lui. Et puis, vous savez, on ne sait pas. La défense a-t-elle des éclaircissements à demander ? Non, monsieur le président. Le témoin suivant qui vint à la barre était un homme qui avait fière allure. De beaux vêtements, bien coupés, des cheveux grisonnants, bien coupés aussi. Il se tenait debout, manifestement habitué à toutes sortes de prestations. Après son serment, il répondit aux autres questions avec aisance. Claude Martin, 50 ans, éditeur. C'est dans votre maison qu'apparut le dernier voyage du négrier Sirius ? Oui, fit le témoin. Comment êtes-vous entré en possession du manuscrit ? Ginette Tontizane me l'a apporté. Ah oui ? Oui, auparavant, elle avait déjà fait éditer deux ouvrages chez moi. Donc, pour ce dernier, elle est venue me voir directement. J'ai lu le manuscrit, j'ai été emballée. Elle m'a rendu visite. Après discussion, nous sommes tombés d'accord sur les modalités de la publication. Donc, elle vous a bien dit qu'elle en était l'auteur ? À ce sujet, elle ne m'a rien dit de spécial. Elle m'a apporté le manuscrit. Pour moi, c'était elle qui l'avait écrit. Et une fois qu'elle a remporté un prix... C'est vrai, après, elle m'a dit « Ah, Martin, je suis embêtée quand même, j'ai un peu fauté, enfin, j'ai fait une faute. Cette faute, je voudrais la réparer. » Mais elle ne m'a pas dit quel genre de faute, c'est tout ce que je savais. « Connaissez-vous l'accusé ? L'avez-vous vu auparavant ?»« Oui, on l'a croisé, oui, on l'a vu avec Ginette dans des bars à Saint-Germain-des-Prés. » Et c'est vrai que quelquefois, ils étaient ensemble, mais d'une humeur morose. Comment était l'accusé ? Vous savez, avec nous, il ne parlait pas. Il était très à l'écoute de Ginette, mais il avait l'air aussi, de temps en temps, assez coléreux, assez contrarié. Et alors, vous n'avez pas de relation spéciale avec lui ? Vous ne pouvez pas témoigner d'une violence ou... Ah, non, absolument pas. Vous avez une idée du fait qu'il aurait pu écrire ce livre ? Mais là non plus, je ne sais pas, puisque pour moi, le manuscrit était de Ginette, je ne me suis jamais posé d'autres questions. Le témoin suivant, Dieu le reconnut, c'était le policier qui l'avait arrêté. Il prêta serment avec raideur. Voulez-vous dire comment vous êtes arrivé à identifier le criminel ? Nous avons eu un coup de téléphone des personnes qui habitent l'immeuble de Madame Tontizane. Et avec mon collègue, nous avons été chargés de l'enquête. On nous avait dit qu'il y avait une dispute. Nous sommes venus d'abord, vu la position du corps, des billets éparpillés. Donc ça ne laissait aucun doute, c'était un crime crapuleux. Mais d'après l'autopsie, le crime a eu lieu à 4 heures du matin et vous ne vous êtes déplacé que dans la matinée suivante. Oui, mais nous avons trouvé sur place une lettre de l'accusé avec son adresse. Donc, nous nous sommes rendus à cet hôtel où il résidait et nous l'avons arrêté. Et voilà, nous sommes ressortis avec l'accusé parce que nous savions que c'était lui. Nous avons su par d'autres témoins qu'il s'était souvent querellé avec Madame Tontizane. Le témoin peut-il dire combien de temps a duré l'interrogatoire ? Oh, vous savez, c'est difficile à dire, nous étions plusieurs à nous relayer. Mais enfin, c'était tellement flagrant. L'accusé a-t-il consenti à signer son interrogatoire ? Non. Eh bien alors ? Eh bien alors, c'est tout. Nous avions fait notre enquête, il n'a pas signé l'interrogatoire parce qu'il ne voulait pas signer ce que nous avions écrit. Mais ça ne nous posait aucun problème. Il était l'accusé et il était pour nous l'auteur du crime. Donc on a bien là une espèce d'absence d'enquête réelle, une accusation qui se limite à des ressentis de policiers, entre guillemets, racistes, qui ont trouvé un homme, un nègre, comme ils disent, dans le voisinage de Ginette Tontizane, un homme qui dit que... Il est l'auteur d'un livre qu'il lui a donné et qu'elle l'a volé, puis l'a fait paraître à son nom. Dernier témoin pour ce jour-là, un vieillard aux multiples décorations. André Vélin, professeur à la faculté de médecine. On vous a chargé d'examiner l'état mental de l'accusé. Quelles sont vos conclusions ? Diofala ne présente aucun trouble mental. Il est sans doute très intelligent, mais il feint sans arrêt une grande indifférence. C'est sans doute comme ça qu'il se cache. Vous paraît-il être un obsédé sexuel ? Oh, vous savez, chez les Noirs, c'est une chose naturelle. Et puis, surtout quand c'est avec une femme blanche. Ils sont fascinés par la blancheur de la peau. Pour eux, c'est beaucoup plus attirant que celle des négresses. Alors vous pensez que si Ginette Tontizane n'a pas cédé à cette avance, il pouvait aller jusqu'au meurtre ? Mais oui, bien sûr. La violence, c'est naturel chez ces gens-là. Monsieur le Président, dit l'avocat, puis-je prendre la parole ? Monsieur le Président, lorsque le témoin déclare que les Noirs sont des obsédés sexuels, peut-il préciser en quoi leur comportement diffère de celui des Blancs ? Témoin. La science a déterminé que les hommes de couleur ont des psychoses devant une femme blanche. Ah bon ? Pour aujourd'hui, il s'agit d'une seule personne. Pouvez-vous préciser vos conclusions ? Mais non, mes conclusions sont scientifiques. Cela est vrai de tous. Mais alors, cet homme est-il fou ou non ? Non, il a des psychoses, mais il n'est pas fou. Alors, pourriez-vous dire que c'est un sadique ? Non, je n'ai pas dit cela. Je dis que c'est un obsédé sexuel comme tous les nègres, enfin comme tous les hommes noirs face aux femmes blanches. Qu'il abuse d'une femme, c'est une chose, qu'il puisse la tuer, c'en est une autre. Moi, je suis médecin, je ne suis pas policier. Le président, à l'énervement général du public, suspendit l'audience. Une demi-heure après, tous étaient de retour à leur place. Diofala avait si peur que tout en lui se brouillait. Contrairement à ce qu'il avait dit à son avocat, il ne comprenait plus rien. Il resta debout à sa place, les mains sur la balustrade. Ses ongles entraient dans le bois, creusaient le bois à lui en faire mal. Et pourtant, cette douleur physique, c'est ce qui lui permettait de supporter cette autre douleur qu'il ressentait partout dans son corps. Diofala, levez-vous. En fait, il était déjà debout. Quelles étaient vos intentions quand vous avez quitté Marseille ? Dio racla ses lèvres sèches. Je ne sais pas, j'avais rien pensé de spécial. Mais enfin, vous avez fait tant de kilomètres, sans réfléchir, sans savoir dans quel but. Qu'est-ce qui vous amenait à Paris ? Ben, je venais voir Ginette pour mon livre. Et quand vous l'avez vue ? Ben, je l'ai rencontrée plusieurs fois et au bout d'un moment, j'ai compris qu'elle m'avait volé. Donc, je voulais une réparation. Mais enfin, pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ? Elle est là pour ça. La police ? Ils ne m'auraient pas cru. Et pourquoi ? Ben, parce que je suis noire. Mais enfin, monsieur, il n'y a pas de ségrégation dans la police. Je ne sais pas. Alors, en fait, vous vous êtes fait justice au lieu de porter plainte. Et lorsque vous avez rencontré Ginette, vous n'avez pas hésité à la frapper. Vous étiez en colère. J'étais en colère, oui, mais je l'ai bousculée, mais je ne l'ai pas tuée. Et puis, ce qu'elle m'avait fait, oui, c'était du vol, mais je n'allais pas la tuer pour ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je l'ai bousculée, nous nous sommes séparés, nous avons crié. Oui, mais c'est tout, je ne l'ai pas tuée. Avez-vous couché chez elle ? Cette nuit-là, non, mais c'est fréquent, oui. Oui, je passais des nuits chez elle. J'étais là depuis un moment, j'étais à Paris, j'allais passer des nuits avec elle. Et alors, si elle ne vous aimait pas, à un moment, vous avez préféré la tuer ? Mais non, je ne l'aimais pas, en effet, mais je ne l'ai pas tuée. Alors, c'est à cause de l'argent ? Vous vouliez la faire chanter ? Ben non, c'était plutôt le contraire. C'est elle qui m'avait volé, c'est elle qui me devait l'argent, oui, en effet, mais c'est tout. Combien gagne un débardeur ? Je gagnais 133 francs de l'heure. Et vous savez combien il y avait de billets par terre ? Non. Il y avait plus de 100 000 francs. Alors, cet argent ? Ben, vous voyez, cet argent, je ne l'ai pas volé. Diofala avait dit ça avec violence. Oui, il en avait assez de cette entrevue, de ce questionnaire, de cet interrogatoire. Enfin, à quoi est-ce que ça rimait ? Le juge continua. « Répondez par oui ou par non. Aimez-vous les Blancs ?»« Quoi ? Est-ce que les Blancs aiment les Noirs ? Répondez, répondez sans poser de questions. »« Mais quand on me témoigne du respect, je le rends. Je n'ai pas aimé les gens. »« Vous devriez savoir qu'en amour, la réciprocité n'est pas exigée. Alors, aimez-vous les Blancs ?» Le Noir, enfin Dio, avait baissé la tête. Il ne savait pas ce qu'il devait dire. Il se disait « Décidément, ce juge veut ma perte. » Et décidé, tout à l'heure, tout à coup, il se redressa et il dit « Les Blancs, s'ils me considèrent comme un être humain, je peux leur rendre leurs sentiments. Mais dans le cas contraire, je serai comme eux. » « Vous les haïssez, donc ? » « Mais enfin, vous venez de le dire. » En amour ou en haine, la réciprocité n'est pas exigée. Bon, alors, vous prétendez être l'auteur du livre « Le négrier Sirius ». Pourriez-vous me réciter un passage du livre ? À cette demande, Dio se frotta les yeux si nerveusement qu'il ne vit plus son entourage, il ne vit plus ce qui se passait. « Je vais essayer, » répondit-il. Le dernier chapitre. Donc après cette espèce de procès brouillé, fumeux, raciste, enfin tout ce qu'on veut, il y a là qui va suivre un extrait du livre que Diofala a écrit, ce livre qui est « La fin du négrier Sirius », c'est-à-dire « La fin des aventures d'un bateau négrier ». Et on va vous en lire un extrait, parce que bien sûr, ce n'est pas un extrait de Diofala, mais c'est un extrait de Ousmane Sembène. Dio marqua un long temps d'arrêt et débuta son récit. À l'aube, le levant comme le couchant s'était assombri, il n'y avait plus d'horizon. À l'avant, la proue se perdait dans les brumes. Dans une vraie purée de pois, les Noirs à bord s'étaient évadés pendant la nuit. Et soudain, d'une écoutille ouverte, malgré le temps, malgré la puanteur, l'odeur de vomissure, de sueur, malgré la putréfaction des morts, ils sortirent de la cale. L'odeur s'exhalait de la cale et les corps sortaient de la cale. Oui, ces cales qui avaient été conçues par des architectes de façon que les enchaînés puissent déplacer leurs membres, mais à peine, juste pour éviter l'engourdissement. Alors l'un des prisonniers s'était libéré, oui, et un matelot avait fait les frais de cette libération, puisqu'il était là simplement pour leur apporter à manger, lui qui circulait librement parmi les prisonniers. On avait entendu à l'intérieur des râles, et puis plusieurs prisonniers s'étaient libérés, et maintenant ils sortaient. Ils avaient libéré leurs membres des fers qui mordaient les chevilles et les poignets enflés. Les hommes et les femmes, dont les membres étaient entrelacés dans des positions bizarres, avaient libéré leurs poignets, avaient libéré leurs chevilles, et tous ces êtres, mal nourris pendant des jours, sortaient maintenant de l'écoutille ouverte. Ils avaient vogué, ignorant leur destination. On trouvait parmi eux tous les groupes ethniques, ceux de la vallée habitant le grand fleuve dont la source prend naissance au pays des hommes voilés de noir, ceux du nord qui avaient fait un pacte d'aide mutuelle devant l'ennemi commun, ceux dont la joue était scarifiée, marquée de trois balafres symétriques, ceux qui passaient leur vie derrière un troupeau en évitant les bêtes féroces. Et puis il y avait les autres, les grands, les minces, il y avait ceux qui traversaient les grands fossés pour pénétrer dans la forêt, ceux qui évitaient les hommes aux oreilles rouges, ceux qui venaient du grand Baba. D'autres avaient des pommettes si saillantes qu'on aurait pu les croire malades. Ils avaient aussi un parler guttural, des demeures au toit si bas que pour entrer dans leur case, il fallait s'accroupir. Et puis, il y avait ceux qui gardaient l'empreinte des chercheurs d'or, les oreilles trouées, ceux dont la magie était grande, dont toute la vie consistait à travailler, parce qu'il fallait bien grossir les troupeaux, parce qu'eux aussi on sacrifiait pour avoir de meilleurs troupeaux, de meilleurs rendements. Oui, c'est la condition à laquelle aussi on pouvait rejoindre les ancêtres. Ceux qui, lorsqu'ils parlaient, ressemblaient à des chiens fuyant dans la nuit, ceux qui habitaient les rochers, ceux qui enterraient leurs morts dans des cavernes pour les soustraire à l'appétit des animaux, ceux qui n'avaient jamais dépassé la frontière des villages, ceux qui ouvraient des yeux ressemblant à des étoiles sous la voûte céleste, ceux qui n'avaient jamais vu d'étoffe, rien que des feuilles, indifférents au soleil ou à la pluie, aux intempéries des saisons, ceux dont on pouvait dire... Non, on ne pouvait dire d'où ils venaient, ni comprendre leur langage, ni connaître leurs coutumes. Alors, les hommes qui les avaient achetés les avaient assemblés là, sans faire aucune différence. Et donc, ils ignoraient qu'ils habitaient naguère, à mille lieues les uns des autres. Ils avaient été rassemblés là, dans ce vaisseau négrier. Ils avaient été rassemblés pour y vivre l'horreur et, à la sortie, servir pour être des esclaves. Tous ces êtres innocents étaient réunis là et leurs regards disaient ce que taisaient les mots. Ce jour-là, le premier des esclaves, celui qui sortit de la soute, celui qui avait pu se défaire de ses chaînes, était suivi de dizaines d'autres. Il rampa jusqu'à la barre et les matelots de garde furent étranglés en silence. Diofala s'était tu un instant. Le navire se divisait en deux, à l'arrière les esclaves, à l'avant les maîtres. Alors, nul ne gouvernait plus que le vent qui s'accentuait avec rapidité. À mesure que la journée s'écoulait, la tempête arrivait, la tempête grossissait. Tout à coup, la vergue céda, la mer se déchaînait, giflant le vaisseau de tous les côtés, et le négrier partit à la dérive. L'eau s'engouffrait dans les écoutilles restées ouvertes, apportant d'ailleurs une fin affreuse à ceux qui n'avaient pas été libérés. Quelques marins avaient tenté un dernier effort pour reprendre le bateau. mais la mer démontée les avait fait passer par-dessus bord. Le hurlement du vent couvrait tout appel. La pluie coupait comme un couteau. Bientôt, les voiles ne furent plus que des lambeaux, la mâture des débris. L'eau pénétrait partout. Des dizaines de corps blancs et noirs, des dizaines de corps frappés, mutilés, des dizaines de corps battus par les éléments, les eaux ou les coups des hommes, suivaient les remous de la tempête. Dans cette lutte contre la mort, les civilisés avaient retrouvé leur instinct primitif. Ils avaient tâché de défendre leur existence avec un grand instinct. Ils s'étaient battus pour reprendre leur place, mais ils étaient tous là, blessés, morts, abandonnés. Les flots venaient les happer. Ils ressemblaient à des mollusques, abandonnés aussi sur un esquif. Les Noirs pleuraient parce qu'ils ne savaient diriger le bateau. Ils se jetaient à l'eau pour certains, dans l'espoir de gagner la terre. Mais les lames se soulevaient, s'écrasaient sur leur tête et contre la coque du navire. Le pont fut complètement submergé. Le conflit n'existait plus, mais le conflit avait eu raison de tous. Ainsi périrent les hommes qui se croyaient civilisés, ainsi périrent ceux qui étaient leurs prisonniers. Telle était l'aventure de ce négrier, le Sirius, qui fut porté, perdu, corps et biens, à Nantes, le 4 décembre 1824. C'était donc la fin du récit de Dio et nous allons vous laisser avec la fin de ce récit de Dio qui est le manuscrit qu'il a écrit et qu'on lui a volé. Et on en saura plus sur lui et sur sa vie un autre jour dans une autre partie de le docker noir de Ousmane Samben. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania.